Georges Baume, Fine. Chapitre 1. C'est la route de Caussade. Elle dévale toute roide du petit plateau où se rassemble le gros village de Montpezat du Quercy. Après avoir séparé deux vallons, creusés comme des cuves où bout la lumière du soleil, elle déroule vers le fuyant horizon sa clarté grise. Un peu partout, des blés, des avoines, des vignes, des champs de topinambours mettent leurs clartés vertes, jaunes et rouges. Dans les combes onduleuses, sur la cime et les flancs des coteaux, des métairies émergent, sordides et discrètes. Et d'autres routes s'enchevêtrent parmi les cultures et les bois, vers des villages, vers d'antiques châteaux embourgeoisés, au Tarn, à l'Aveyron, à Molières, à Castelnau de Montratier. Une fillette de 14 ans, brune comme une mûre sauvage, le sang aux joues, la peau dure, lustrée par le soleil et par le vent, gardait ses oies ce matin. Assise au pied d'un arbre, les jambes ballantes, elle tournait le dos à la route. Au loin, des grelots bruissaient avec un gai refrain de retour. Cette musique, dans le silence de la terre, réveilla doucement la fillette qui s'était assoupie. Elle se leva, curieuse, amusée. Et de n'être plus seule avec ses oies, d'avoir à occuper son imagination, son cœur battit d'un plaisir étrange. Le roulement des roues rapides s'avança bientôt. Au coude de la montée apparut un attelage bien connu dans le Quercy. La fillette, qui avait marché vers le bruit, s'arrêta. Sur la côte raide, la voiture, s'étant ralentie, grimpa lentement. Les oies, à coups d'ailes craintives, se groupèrent autour de la paysanne, contre ses sabots. Les chevaux gravissaient la côte avec effort, en agitant la queue sur leurs flancs en sueur, en donnant des coups de tête à droite et à gauche pour épier. La fillette, ébahie, regardait l'attelage du riche. Les grelots ne tintaient plus qu'à peine, autour des colliers rouges liserés de cuir bleu. Elle écarta d'un élan de sa gaule les oies qui, sautement, s'approchaient des roues. Ses yeux sensuels de pauvresse dévisageaient le jeune homme qui tenait les rênes. Monsieur Maurice de Valdez revenait de Montauban avec son vieux domestique Frances. Et lui, qui avait maraudé l'amour à travers le monde, abusé des femmes de tout ordre et de toute couleur, s'intéressait maintenant à une pastoure qu'il croyait niaise. La santé des campagnes l'avait gardé viril et sensible, tel qu'un jouvenceau. Il avait le feu aux joues, ses mains étaient piquées de frissons. Il se détournait pour voir la pastoure encore, pour emporter d'elle un souvenir. La pastoure, intriguée par la curiosité de M. de Valdez, regardait ardemment l'attelage. Soudain, les premières maisons du bourg, au bout de la côte, le lui déroba. Elle tressaillit d'un malaise. Pourtant, il lui semblait que le monsieur du château avait tendu la main vers elle en un salut d'amitié pour se moquer peut-être. C'est qu'il était connu comme le loup blanc, M. Maurice. Il portait le nom du château, aujourd'hui démoli, qui, autrefois, commandait aux campagnes quercinoises. La pastoure descendit chez elle, au creux du val. Elle songeait à M. Maurice, dont jamais elle ne toucherait les mains précieuses, et aussi à la voiture, à tous les attelages de chevaux, qui jamais ne porteraient son corps, que, dans son innocence, elle méprisait. La mère était encore seule à la chaumière. De figure pâlote, les yeux gris, Philomène tournaillait dans la salle commune où déjà mijotait une soupe de fèves. « Te voilà, Fine, c'est bientôt !» La pastoure, sans répondre, conduisit ses oies derrière la maison en un coin de luzerne. Là, sa sœur, accroupie entre les racines déchaussées d'un chêne, coupait des amandes à coups de pierre. Reine était l'enfant gâté de la famille, sans doute à cause de ses goûts de vagabondage, de maraude. Des journées entières, elle trottait par les champs jusqu'au village de la Madeleine où elle se faisait inviter à manger et à boire par les pharaons qui étaient parfois ses aînés de beaucoup. Les jambes étendues, elle grignotait ses amandes et, distraite par les moineaux qui se chicanaient dans un buisson, elle frottait ses lèvres de sa langue rose ou relevait sur son front bosselé des cheveux roux. « Veux-tu quelques amandes, Fine ?» Reine tendait son bras demi-nu, marqué de cicatrices. Ses yeux bleus luisaient de plaisir, naïvement. « Elles sont bonnes, goûte. Je les ai trouvées en dessous du faïal, à l'ancienne source. »« Non. Hé, qu'as-tu? Une amourette? Ça te vient à toi aussi ?»« Non, je suis trop jeune. »« Tu n'es plus jeune, tu as pris racine dans la vie et il te faudra du soleil et de la pluie, le rire des hommes et leur méchanceté de jaloux. Non. Si, tu es grande, ton corps a, partout où il faut, ses parures, comme l'arbre ses feuilles. Le bon Dieu ne nous défend pas d'en jouir, puisqu'il nous l'a donné. Il est notre seul trésor à nous. Ça, un trésor, répliqua Fine, qui frappait avec colère ses hanches rondes. Seulement, ajouta Reine à voix basse, sache, s'il est neuf, en tirer un meilleur parti que moi. Fine restait debout. C'est plaisant à voir sa sœur s'égayer, elle semblait ne plus l'entendre. Et pourtant, les conseils de Reine troublaient avec délice son cœur d'enfant, ses sens éveillés de femme. Une rumeur de pas précipités, pareil roulement du tonnerre, s'éleva peu à peu de l'entrée du val. C'étaient les taurins qui revenaient du pâturage, en folâtrant, en se cherchant les cornes. Devant l'étable ouverte, avant d'y pénétrer, ils beuglèrent. Calice, le chef de la famille, suivait ses bêtes. Il enfila la longue allée de pruniers, à gauche et à droite de laquelle se répandaient des cèpes et des légumes, et, sans entrer dans la maison, il s'assit sur le banc de pierre qui était scellé au mur, entre la porte et la fenêtre du réduit, où couchait Fine avec Reine. « Eh bien, Philomène, demanda-t-il en se penchant vers le seuil, est-ce que notre aîné est revenu ?»«
Pas encore. »
« Voici nos héritières. La soupe sent bon les fèves, crédi. » Toine se montra aussitôt, là-bas, dans le chemin. Un moment, la main sur la branche d'osier qui ferme la petite porte à claire-voie, il se mit à causer avec Marthe, la veuve de cette chaumière qu'on entrevoyait parmi les ormes de l'autre côté du ruisseau. Marthe, de loin, dit bonjour au père Caliste. Toine s'avança chez lui. C'était un gaillard brun de 18 ans, tandis que Reine, la cadette, en avait 16. Philomène avait donné 3 enfants à son maître, un tous les 2 automnes, à l'époque des vendanges. Mais les Mauracs, dans les bombances d'amour qui ne coûtent un centime à personne, s'étaient arrêtés tout d'un coup. La chaumière suait la pauvreté, de même que toutes alentours et au loin. Son toit en rocaille et en morceaux de briques, abrité de ses versants roides, les murs non récrépis, amassés en rectangle, roche après roche. 3 compartiments s'y abritaient, ou plutôt 2. L'étable occupait la moitié du logis, assez spacieuse pour 2 taureaux, un cochon, et pour Toine, lequel couchait sur de la paille dans un coin. Les vieux couchaient au fond de la salle commune, où, derrière un tas de bois, Reine et Fine se réfugiaient le soir. Les Mauracs se croyaient très pauvres. Ils se chamaillaient au moindre propos, bien que le ménage ne souffrît de rien. L'ambition du maître, c'était d'avoir, ainsi que ses camarades, sa carriole à lui, une belle vigne, un pré plus important et aussi un blé, et puis une luzerne, enfin, de quoi faire toute l'année enrager une paire de bœufs. Toine, déjà, mordait au besoin de posséder quelques terres au soleil. Ce soir-là, Toine vantait une chèvre aperçue dans un clos, une chèvre pleine. Il avoua son dessein d'en acquérir une à l'occasion. Plus tard, on aurait un troupeau.
« Tu, tu, tu !» fluta Caliste. « Moi, j'aimerais mieux garder l'argent pour laisser croître nos taurins, et une fois qu'ils seraient forts, nous irions labourer pour les riches, et ça ferait rudement notre affaire. »
Philomène sommeillait sur sa chaise, les bras croisés. Les filles dormaient dans leur réduit, sous les mêmes couvertures. Toine alla s'allonger sur sa couchette. En fermant la porte de l'étable, il ne songeait qu'à sa chèvre.